Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue. Nous avons pour vous aujourd'hui une édition entièrement dédiée à la Chine. Notre capsule historique avec Isabelle Junot raconte l'histoire de Tencent, l'une des compagnies chinoises technologiques parmi les plus influentes dans les secteurs des télécommunications et du divertissement. Notre question du beau-frère provient de John de Dollar des Ormeaux. Son beau-frère l'exhorte de sortir tous ses investissements qui touchent de près ou de loin à des entreprises basées en Chine. Car, dit-il, le gouvernement chinois manipule toutes les données et on ne peut pas s'y fier. A-t-il raison d'être aussi méfiant? Et comment peut-on évaluer les données officielles? En évitant d'inclure des investissements dans les pays du BRIC, passe-t-il à côté de quelque chose? Notre invité est l'un des rares journalistes occidentaux à avoir su développer une expertise de pointe sur la Chine. Jean-François Lépine est aussi l'auteur du best-seller « Les angoisses de ma prof de chinois, où s'en va la Chine? » paru chez Libre Expression. Ensemble, nous discutons de l'évolution de la société chinoise et de son économie. Le balado Le Planif débute à l'instant.
Tencent est un conglomérat chinois en technologie et divertissement. Sans se tromper, on peut prétendre que Tencent a révolutionné le monde des services Internet et mobiles. Fondé en 1998 par Ma Wenteng et Zhang Zidong, Tencent a débuté avec des services de messagerie instantanée comme Tencent QQ. Le nom Tencent signifie « message au galop ». Et le caractère Teng fait partie du prénom de Ma Wenteng, le fondateur. L'entreprise a connu des débuts difficiles, perdant de l'argent pendant ses trois premières années. Cependant, en 2001, le groupe de presse sud-africain Naspers a investi dans l'entreprise, acquérant 46 % des parts. Tencent est surtout connu pour ses services de réseaux sociaux et de messagerie instantanée, notamment WeChat, qui est devenu une application incontournable en Chine. En plus de la messagerie, Tencent a diversifié ses activités en investissant dans le commerce en ligne et les jeux en ligne multijoueurs. Elle a une participation dans Epic Games, l'éditeur de Fortnite et Infinity Blade, et possède près de la moitié de la société mère d'Ubisoft. En termes d'investissement, Tencent n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille. En 2016, l'entreprise a acquis 73,2 % de la société de jeux vidéo Supercell pour 6,6 milliards de dollars. En 2017, elle a également investi entre 5 et 10 % dans Skydance Media pour environ 100 millions de dollars. Aujourd'hui, Tencent est une entreprise cotée en bourse de Hong Kong et fait partie de l'indice Hang Seng. Sa valeur boursière frôle les 400 milliards de dollars américains.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
La note de la dette extérieure à long terme de la Chine a été abaissée de stable à négative par Fitch Ratings. Ça s'est passé mercredi le 9 avril. L'agence invoque des inquiétudes concernant l'aggravation des déficits et des inquiétudes économiques. La révision des perspectives reflète donc des risques croissants pour ce qui est des finances publiques de la Chine, alors que le pays est confronté vraiment à des incertitudes dans un contexte de transition d'une croissance fondée sur l'immobilier vers ce que le gouvernement considère comme un modèle de croissance plus durable. C'est l'analyste principal Jeremy Zuk qui a déclaré ceci au nom de Fitch Ratings. Les larges déficits budgétaires et l'augmentation de la dette publique au cours des dernières années ont érodé les réserves budgétaires au point de vue justement des évaluations des firmes comme Fitch. Et cette dernière a confirmé la note de défaut de l'émetteur pour la Chine. Sa note est toujours de A+, qui selon elle était soutenue par une économie vaste et diversifiée. La croissance du produit intérieur brut dans l'avenir, c'est toujours solide par rapport à ses pairs. Il y a un rôle essentiel, je pense, dans le commerce mondial des biens qui est directement associé à la Chine. Des finances extérieures solides, des statuts de monnaie de réserve du yuan. Mais quand même, la situation présente montre qu'il y a une forme d'inquiétude généralisée. Les analystes prévoient que la dette publique de la Chine, la dette des administrations locales et centrales, atteindra 61,3 % du PIB contre 56,1 en 2023. C'est une nette détérioration par rapport au 38,5 de 2019. Depuis le temps, donc, vraiment, ça s'est creusé. Et la mesure dans laquelle le soutien budgétaire relancera la croissance sous-jacente du PIB, ça constitue une incertitude majeure quant à l'évolution de la dette. Les risques liés à une dette publique plus élevée sont atténués par un taux d'épargne intérieure très élevé, qui a toujours été le cas en Chine. On prévoit que le PIB chinois ralentira à 4,5 en 2024 contre 5,2 en 2023, mais il est toujours positif. Il y a Ray Dalio, fondateur du fonds spéculatif Bridgewater, qui a récemment défendu ses investissements en Chine, affirmant qu'il pensait que les décideurs chinois étaient déterminés à mettre en œuvre un assouplissement quantitatif et une restructuration de la dette. Il faut dire que les indices de marché en ont drôlement besoin. On regarde ça de plus près. L'indice boursier Hang Seng de Hong Kong, il est au neutre depuis le 1er janvier à 17 139 points. Il est au même niveau qu'il était il y a 15 ans, pour vous dire de quelle manière la richesse a été érodée depuis peu. Et depuis son sommet de 30 093 atteint en 2018, l'indice de Hong Kong a perdu 43% de sa valeur. L'indice boursier de Shanghai, il ne fait pas mieux avec un déclin de 46%. Et avec toutes ces données étonnantes, bien, la question fondamentale est assurément, mais où s'en va la Chine? Jean-François Lépine a eu toute une carrière de journaliste. Encore aujourd'hui, on peut l'entendre à la radio à 98.5. On peut lire ses écrits aussi. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au balado Le Planif.
Ça me fait plaisir.
Nous allons parler de la Chine. C'est indissociable maintenant, Jean-François Lépine et la Chine. Vous avez été correspondant à partir des années 80 en Chine pour Radio-Canada.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit le livre, c'est que qui sommes-nous pour écrire sur la Chine? Mais je me suis dit, je suis probablement un des rares, même au Canada, à avoir suivi ce pays-là depuis autant de temps. Mm-hmm. D'avoir été là pendant 4 ans en 82, jusqu'à être diplomate pendant 5 ans, 6 ans à la fin, jusqu'en 2021. Et j'ai donc cette perspective-là sur la Chine qui est peut-être assez unique.
Oui, et puis vous êtes un des rares à parler aussi.
Oui.
C'est le mandarin.
Oui.
Et puis votre ouvrage, qui est un coup de cœur, Renaud Bré, qui est enfin un best-seller, raconte les angoisses de votre prof de chinois. Quel bel angle de justement d'y aller de ce côté-là. Elle s'appelle, est-ce que je prononce bien, Aishang, c'est le
Aishang,
surnom?
Aishang,
c'est le surnom que vous lui avez donné.
Oui, exactement, parce que je peux pas mentionner son nom. En fait, le titre, c'est les angoisses de ma prof de chinois, mais en fait, c'est pas vraiment ma professeure de chinois, je m'en sers un peu dans le livre, presque à chaque chapitre, parce que ce que je raconte, c'est qu'à chacun de nos cours, pour me faire apprendre du vocabulaire nouveau, elle choisissait des sujets de discussion différents. On pouvait parler de politique, on pouvait parler de relations amoureuses, on pouvait parler de nourriture, on pouvait parler de etc., etc. Et à travers ces échanges-là, on passait en revue, en fait, la vie en Chine et aussi c'est les questions qu'elle avait sur nous, sur les étrangers, sur nos pays. Donc, on comparait souvent nos pays. Ça a été finalement une expérience pendant des années qui a été extraordinaire, parce que je voyais à travers elle sa vision de la Chine, ses perceptions et tout ça. Elle testait mes perceptions de la Chine et puis elle posait des questions sur nos pays, comment on vit, comment on pourra en parler plus tard. Mais c'est donc à travers ça que j'ai décidé, en me servant un peu du thème de ces chroniques-là, de ces cours-là qu'on avait ensemble, le livre traite de différents aspects de la Chine d'aujourd'hui.
Vous avez vu l'évolution, vous avez été témoin de l'évolution de la Chine, d'abord sous Deng Xiaoping et ensuite Xi Jinping. Et il y a une grosse différence entre les deux présidents?
Ben d'abord, c'est pas deux présidents parce qu'il y en a eu deux autres au milieu. Moi, je suis arrivé, c'était l'après Mao. Mao était mort en 76. C'était donc après une période où la Chine avait souffert énormément, était d'une pauvreté extrême. Mao a ruiné ce pays-là qui était déjà exsangue quand il l'a pris en 1949 après une guerre civile invraisemblable. Et Deng Xiaoping est arrivé, c'était un ancien ministre de Mao. Et c'est un personnage que je décris comme d'abord un des personnages les plus importants du 20e siècle à cause de ce qu'il a fait avec ce 1,4 milliard d'habitants. C'est un homme qui croyait beaucoup au peuple chinois, qui avait été témoin des horreurs de Mao. et qui a ni plus ni moins dit « plus jamais on va s'embarquer là-dedans ». Et ce qu'il a fait de très différent, c'est qu'au lieu d'essayer de dominer ce peuple chinois-là, il a fait confiance aux capacités de ce peuple-là. Les Chinois, c'est des gens extrêmement travailleurs, c'est de grands commerçants, des gens qui ont beaucoup le sens des affaires, même dans leur vie quotidienne. Alors, si on pouvait décrire un des aspects de ce peuple-là, c'est celui-là. Et il s'est servi ni plus ni moins du dynamisme de ce peuple-là pour relancer la Chine et relancer l'économie de la Chine. Et les premiers slogans de Deng Xiaoping, quand il est arrivé au pouvoir, ont montré cette rupture-là. D'un jour à l'autre, il s'est mis à dire « Dorénavant, il faut voir la vérité dans les faits. Faut plus se raconter d'histoire, là, comme on l'a fait sous Mao. Mao racontait n'importe quoi et le pays est en ruine. Puis évidemment, il disait tout autre chose. Et ensuite, il a dit quelque chose de très important pour les Chinois. Il n'est plus honteux d'être riche. Ça, là, ça a été le... Parce qu'encore une fois, Mao s'est attaqué à la classe bourgeoise, à la classe dirigeante, aux vieilles familles riches de Chine. Et puis a voulu tout liquider ça, mais en liquidant tout ça, il a tout liquidé du dynamisme et de la richesse, d'une partie de la richesse de la Chine et tout ça. Alors donc, on marquait un changement. Puis, une chose très importante que Deng Xiaoping a lancée dans ses réformes, c'est que le Parti communiste chinois, qui est quand même une entité contrôlée, politique, extrêmement importante, 90 millions de membres, il a installé au sein du parti une forme de collégialité, parce qu'il avait vu l'obscurantisme de Mao qui faisait taire tout le monde, et qui un dictateur qui fait taire tout le monde, mais ça enlève tout le dynamisme dans un pays. Et lui a voulu créer au sein du leadership, et j'en arrive à la différence avec aujourd'hui, avec Xi Jinping, c'est que Deng Xiaoping a voulu que le leadership, même après lui, perpétue une tradition de collégialité. On décide pour le mieux pour ce pays-là, mais en collégialité. Donc, il y avait toujours au sein de la direction sous Deng, et après ça, sous Jiang Zemin, sous Hu Jintao, les présidents qui ont suivi. D'abord, il y avait une limite de mandat. Il fallait pas être au pouvoir plus que 10 ans. Ce que Xi Jinping a changé. Il fallait cette collégialité-là, donc on décidait des grandes orientations ensemble. On débattait à l'interne de ces grandes orientations-là. Quand les gens disent qu'il n'y a pas de démocratie en Chine, c'est une forme de démocratie extrêmement importante. Ce qui est arrivé, c'est qu'après le président Jiang Zemin, qui a régné pendant 10 ans, dans principalement les années 90, ensuite Hu Jintao, la première décennie des années 2000, à chaque décennie, il y a une course à la direction pour la succession. La différence, c'est que Xi Jinping a affronté un personnage qui était très charismatique, qui s'appelait Bo Xilai. Tous les deux étaient des fils d'anciens ministres de Mao. Ce qu'on appelle ces gens-là, ces fils-là, des princes rouges, donc des princes communistes. C'est la dynastie, hein? Alors, ces deux-là, Xi et Bo, se sont affrontés, mais pour la première fois dans ces courses à la succession qui se faisaient dans un climat de collégialité, là, il y a eu un affrontement physique. Il y a eu des morts, il y a eu vraiment une guerre de pouvoir qui s'est terminée de façon extrêmement mauvaise. Et celui qui a gagné, c'est celui qui a pris le contrôle du système, puis qui a utilisé la police, les forces de sécurité, pour se garder au pouvoir. C'est la première fois que ça arrivait depuis Mao, depuis la révolution de Mao. Et cet homme-là, donc, Xi Jinping, pour se maintenir au pouvoir, compte tenu du fait qu'il a éliminé des milliers de gens, parfois même physiquement, mais beaucoup en les emprisonnant sous prétexte de lutte contre la corruption, pour gagner le pouvoir de façon violente, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a devant lui au sein du parti? Beaucoup d'ennemis qui lui en veulent, qui ne lui ont jamais pardonné. Donc, il a développé une forme de dictature qui n'a plus rien à voir avec le gouvernement que Deng Xiaoping avait mis sur pied à l'époque. Et je rappelle une chose en terminant, c'est que Deng Xiaoping, quand je dis que c'est un politicien qui, pour moi, est un des plus grands politiciens du 20e siècle, pendant qu'il était au pouvoir, pendant qu'il contrôlait environ 10 ans de pouvoir, il n'a jamais voulu occuper un seul poste. On n'a jamais vu sa photo nulle part. Le seul poste qu'il occupait, c'est un poste stratégique en Chine, c'est président de la commission militaire du parti. l'armée chinoise. C'est le nerf de la Chine. Encore aujourd'hui, c'est très important. Malheureusement aussi, c'est une force de corruption parce que l'armée contrôle beaucoup de secteurs industriels. Mais cela dit, le poste de commissaire, je dis commissaire, mais c'est un terme communiste, mais de président de la commission, c'est vraiment le poste le plus important qu'il a toujours gardé. Mais tous les autres, vice-président, secrétaire général du parti, figure publique, jamais. Et c'est ça qui est important. Alors qu'aujourd'hui, Xi Jinping, je l'appelle dans le livre le président de tout. En fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le magazine The Economist qui l'appelle comme ça. Et c'est un personnage qui s'est octroyé tellement de pouvoir qu'on dit qu'aujourd'hui, il contrôle plus de pouvoir qu'en contrôlait Mao lui-même à l'époque, qui était un président tout puissant. Alors ça vous dit un peu quel genre de... Et ça, sur le plan de... On le voit aujourd'hui, là, après 2 fois 5 ans de pouvoir de Xi Jinping, il a changé la constitution de force pour se permettre un troisième mandat, ce qui était contre la façon de voir des dirigeants du parti, mais il a forcé la main de tout le monde. Et ça fait en sorte qu'on vit dans un climat de peur en Chine qui est extrêmement nuisible pour le pays et en particulier le sujet qui vous intéresse, l'économie du pays.
Oui, pour les affaires, c'est sûr qu'il y a toujours un doute. On entend parler de multinationales qui maintenant cherchent de nouveaux partenaires.
Tout à fait.
Que ce soit le Vietnam, avec l'Inde, avec bien sûr l'Amérique latine. Mais est-ce que la Chine aujourd'hui, vous croyez qu'elle a perdu de son lustre?
Ben, c'est-à-dire que d'abord, le niveau d'investissement direct étranger en Chine a baissé énormément. À tel point que il y a quelques jours à peine, Xi Jinping a fait venir en Chine les plus grands dirigeants des grandes entreprises américaines, dont Tim Cook et des gens comme ça de Apple. Parce que il y a énormément de grandes multinationales américaines qui étaient implantées en Chine, qui investissaient en Chine, qui fabriquaient en Chine, qui sont en train, comme vous l'expliquez, de diversifier ou de carrément quitter la Chine pour retourner, par exemple, aux États-Unis. Et ça, c'est très inquiétant pour le pays. Si on va en Chine aujourd'hui, on voit presque plus d'étrangers. Ce qui se faisait pas avant.
Ça fait partie des angoisses, d'ailleurs, de votre prof.
Exactement.
De
ben oui, exactement.
Elle en vit, justement, de son métier avec les étrangers.
Exactement. Elle vit de ça parce qu'elle a une école de langue. Mais elle-même n'est plus là, de toute façon, aujourd'hui, au moment où on se parle, parce qu'elle étudie à l'étranger. Même si elle est au milieu de la trentaine, elle est allée faire un MBA. Et donc, il y a cette préoccupation-là, d'une Chine qui se referme un peu malgré elle, et qui a tellement posé des gestes malhabiles qu'elle a poussé beaucoup d'entreprises et beaucoup d'étrangers à quitter le pays. Par exemple, la Chine de Xi Jinping est tellement paranoïaque qu'il y a beaucoup de firmes de consultation étrangères en Chine qui analysaient le marché, par exemple, pour aider les autres entreprises à écouler leurs produits, surtout dans le domaine, d'ailleurs, de la consommation courante, la consommation de la consommation de détail, vêtements, mode, etc., etc. Et à un moment donné, il y a des gens dans ces entreprises de consultation qui ont été arrêtés et accusés d'espionnage parce qu'elles analysaient les fondements même des attitudes des Chinois, ce que toutes les firmes de marketing font dans le monde.
Et les Chinois aussi le font avec les Occidentaux.
Exactement. Tout à fait.
C'est ce qu'on reproche aussi et c'est ce qu'on craint avec, que ce soit les médias sociaux, avec, on peut penser à TikTok, on peut penser aussi à toutes sortes d'appareils électroniques dont la fabrication finale, l'assemblage se fait en Chine. Et aujourd'hui, on craint qu'il n'y ait pas des ajouts électroniques d'espionnage sophistiqué. Est-ce que ces craintes sont réalistes ou c'est de la paranoïa?
Moi, je pense que c'est tout à fait réaliste. D'abord, c'est sûr que la Chine, et j'essaie toujours de relativiser ça, la Chine, c'est la deuxième économie au monde. C'est un pouvoir qui est un pouvoir conquérant, qui veut avoir sa place dans le monde et qui estime, comme d'autres, comme les Russes, par exemple, que les Occidentaux font tout pour empêcher son développement et tout ça. Donc, la Chine a une attitude assez combative dans le monde. Et puis, tout l'espionnage à l'étranger, l'utilisation des communautés chinoises à l'étranger, on parle de 40, 50 millions d'individus, et de plus en plus actives aussi, pour promouvoir les intérêts de la Chine. de toutes sortes de façons, entre autres l'espionnage, l'infiltration et ça. Mais en même temps, je dis, tu sais, quand les États-Unis ont bâti leur infrastructure industrielle, ils sont allés espionner les Européens pour voir comment ils faisaient, puis ils ont rapporté toutes sortes de choses aux États-Unis. C'est d'une certaine façon de bonne guerre de faire ça, mais il faut quand même être méfiant, extrêmement méfiant. Et c'est pour ça que on a vu à une certaine époque. Les gens qui nous écoutent vont s'en souvenir, la compagnie Huawei, qui est une grande compagnie d'infrastructures de communication en Chine.
Mais d'origine militaire.
C'est-à-dire, en Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de séparer le militaire du civil dans beaucoup de secteurs. Parce que les militaires investissent, ensuite s'éloignent peut-être de la gestion quotidienne, mais l'armée est un instrument de développement industriel, un instrument de contrôle. Alors, c'est sûr que c'est un exemple. Monsieur Ren, le fondateur de Huawei, est un ancien militaire à qui on a donné du fric, puis on lui a dit, toi, tu vas développer tel secteur. Tu vois, bon. Et Huawei, ce qu'il y avait de caractéristique, c'est que quand tu établis des réseaux de communication, il n'y a rien de plus facile que d'installer dans les réseaux une puce d'espionnage qui va ramasser des données, puis espionner. Non, mais entre vous et moi, les GAFAM sont dans ça aussi. Toutes les grandes compagnies sur le web collectent des données. Toutes les grandes compagnies commerciales collectent des données. On est tous dans ce trésor précieux qui s'appelle les données, à toutes sortes de points de vue. Je pense qu'on avait raison, par contre, de ne pas nécessairement se mettre dans la gueule du loup et d'utiliser Huawei comme technologie de communication. Même si elle est, parce qu'elle était moins chère, c'était ça la raison hein, pour laquelle tous les TELUS et Bell Canada étaient en train de signer des contrats avec Huawei.
Oui, oui, le déploiement du 5G c'est passait ça. Par cette compagnie.
Exactement. Ben non, ça passait aussi par d'autres.
Mais c'est que ces infrastructures, étaient plus accessibles.
Ouais. Ça coûtait beaucoup moins cher. Puis les Chinois sont des grands. Une de leurs grandes qualités qu'ils ont apprises très vite et qui était comme camouflée pendant presque des siècles en Chine, sauf au 18e, 19e siècle où la Chine était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Les Chinois ont cette capacité de construction, d'aménagement et de gestion de grands projets qui en font maintenant les champions au monde. Alors, c'est sûr que les infrastructures de communication, ils offraient un système qui était extrêmement efficace, moins cher que leurs concurrents, et c'était tentant. Et puis, on a dû légiférer, on a dû interdire l'utilisation de ces systèmes-là parce que on voulait éviter de se mettre dans la gueule du loup, en fait.
Il y a la Chine avant et après la pandémie.
Oui.
Qu'est-ce qui a changé?
Ah, ça, c'est intéressant. D'abord, moi, je dis tout le temps, parce que je fais beaucoup de conférences sur la géopolitique mondiale, et puis ce que la pandémie nous a révélé d'abord, qui est un précédent par rapport à d'autres époques, c'est que les Chinois en étaient, il faut le rappeler, là, quand le virus de la COVID-19 a fait son apparition en Chine, les Chinois ont immédiatement caché les origines. Ont essayé de régler ça eux-mêmes jusqu'à ce que ça devienne, quelques semaines plus tard, une vraie pandémie mondiale. Pourquoi? Parce que tout ça est né avant le Nouvel An chinois. Le gouvernement chinois n'a pas voulu dire qu'il y avait ce problème-là. Et le gouvernement chinois a laissé partir à travers le monde tous les gens qui allaient célébrer le Nouvel An chinois ailleurs. Il y a plus de 5 millions de Chinois qui sont partis dans des villages où il y a des communautés chinoises, comme en Italie. L'Italie a été une des premières frappées. Il y a des villes en Chine qui sont presque jumelées à des villes italiennes.
Ben oui.
Où est-ce qu'il y a des communautés qui viennent essentiellement de cette ville?
Et ils ont installé des manufactures.
C'est plus loin que ça. Ça remonte à l'immigration primitive.
Ah, d'accord.
Hein, quand les Chinois du sud de la Chine en particulier partaient parce qu'ils crevaient de faim dans des crises, ils allaient s'installer. Puis comme n'importe quel groupe d'immigrants, ben un arrivait dans telle petite ville d'Italie, il appelait la famille, puis après des générations, puis éventuellement, effectivement, il devenait des industriels ou des commerçants, ou des etc.
Je me souviens que l'Italie a été fortement touchée au
début. C'est ça. Donc l'Italie, ça a été le début. Pourquoi? Parce que ces gens-là, à l'époque, là, avant la pandémie, Les Chinois, c'était le plus gros, c'était devenu le plus gros contingent de touristes au monde. Et on disait que au moment du Nouvel An chinois, il y avait plus de 7 à 800 millions de Chinois qui voyageaient, principalement en Chine, mais il y en avait beaucoup qui partaient à l'étranger, voir leur famille à l'étranger ou voir simplement voyager à l'étranger. Puis on a vu la pandémie se répandre. Et ce qu'on a vu pour la première fois comme conséquence de la COVID, c'est on a vu pour la première fois la Chine refuser complètement que l'OMS, que les médecins étrangers viennent voir d'où venait cette pandémie-là. Comment ça s'était passé? Comment on avait traité les premiers cas? Comment on les avait découverts pour qu'on puisse apprendre pour la prochaine fois? Donc, on a vu la Chine fermer complètement ses portes, ensuite fermer les portes du pays pendant 3 ans pour régler le problème seul. Donc, isolement de la Chine, autoritarisme chinois. C'est la première fois que ça arrivait. L'autre chose qui a été très importante et que je dénonce beaucoup, c'est même nous, les riches de la planète, on s'est dépêché à financer la création de vaccins. On a donné ces vaccins-là à personne d'autre qu'à nous, les riches. On a distribué ça entre nous, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, peut-être l'Australie. Et puis le Sud global, par exemple, a été laissé de côté complètement. Le deuxième échec de la COVID, c'est l'échec de la solidarité internationale. Et moi, je vois des points marquants là, c'est le début des années 2020. Ça a été un des drames qui illustre beaucoup ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais la COVID a illustré de façon brutale les politiques de Xi Jinping. L'auto-contrôle, l'auto-direction, la fin de l'influence étrangère, on règle nos affaires entre nous, on reste secret, etc., etc. Et c'est là-dedans que la Chine essaie actuellement de se dépatouiller parce que son économie a énormément souffert de tout ça. On pourra en parler parce qu'en 2022, après les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, l'Omicron s'est installé en Chine. Les Chinois ont échoué dans leur politique de contrôler le virus et ça a été une catastrophe.
Vous en parlez dans votre bouquin, ce repli vers soi durant la pandémie. Les Chinois, culturellement, pour avoir fait un voyage en Chine aussi, j'ai été étonnamment surpris de ce besoin de se sauver la face.
Oui,
de sauver les apparences.
Tout à fait.
Est-ce que c'était une forme de motivation, une révélation culturelle de dire on ne collabore pas avec l'Organisation mondiale de la santé, puis on règle nos affaires et tous ces cachotteries?
Dans la culture chinoise, c'est effectivement important, ce qu'on appelle la face. Les Chinois appellent ça comme vraiment mianzi, la face. Et ça, c'était effectivement un réflexe extrêmement important, mais les Japonais ont le même type de culture, les Coréens et tout ça. Il y a plus que ça. Il y a vraiment une dictature qui dit, qui est elle-même sur la défensive face à son peuple, d'avoir caché l'existence, parce que les premiers cas ont été découverts en décembre, puis la Chine a reconnu le problème le 20 janvier. Je sais, j'étais là quand le matin où c'est arrivé et qu'on a su qu'il y avait vraiment, alors que les rumeurs roulaient depuis 2 mois et on savait que les cas étaient extrêmement graves, que c'était un virus dangereux au plus haut point et contagieux au plus haut point. Et d'abord, il y a eu cette erreur-là. Et donc, le réflexe de la face, c'était d'abord par rapport à son peuple. Mais là, on parle d'une dictature féroce. Xi Jinping est au pouvoir depuis 8 ans. Il est arrivé au pouvoir par la force. Ses affaires ne vont pas si bien que ça. Donc, c'est une raison de plus qui fait qu'il ferme non seulement les vannes de l'information face à son propre peuple, puis il décide de gérer son peuple, tout le monde à la maison pendant 2 mois, enfermé systématiquement. Ça a été le premier geste du gouvernement à la grandeur d'1,4 milliard d'individus, des personnes âgées qui sont mortes chez elles, etc., etc. Mais la deuxième chose, c'est face à l'étranger. Là, on a dit, on ne montrera rien, puis on règle notre problème, on ferme nos frontières. Plus personne ne pouvait entrer en Chine. Ça a été toute une histoire. Et pour moi, c'est vraiment un obscurantisme qui est extrêmement dangereux. Je rappelle, en terminant sur ce sujet-là, qu'on en était à la 3e pandémie mondiale issue de la Chine. Il y avait eu le SRAS, il y avait eu la grippe aviaire dans les années qui avaient précédé. On ne peut plus vivre comme ça. Il ne faut pas commencer à vivre comme ça sur la planète. Là, parce que ça
Mais vous avez vu comme moi les marchés au niveau sanitaire, en plein soleil, de montrer de la volaille, des poissons, tout ça. C'est, parfois, c'est d'une autre époque. D'autres fois, c'est ultra-moderne.
Ouais.
Et tout se mélange, c'est propice.
C'est compliqué
aussi.
Parce qu'encore une fois, on ne sait pas encore aujourd'hui si le virus n'a pas été produit par le centre de microbiologie de Wuhan, où il y avait des recherches militaires de premier plan, dont on sait maintenant qu'elles étaient partagées par des Chinois qui travaillaient au centre de recherche
Winnipeg.
De Winnipeg au Canada. Il y avait des échantillons de virus qui se partageaient. Toute cette histoire-là, d'ailleurs, on a une responsabilité, le Canada, dans tout ça, là, qu'il faut, j'espère que les autorités vont explorer ça à fond. Mais il n'est pas interdit de penser qu'en fait, il y a eu des manipulations qui se sont faites au laboratoire à Wuhan. Il y a des gens qui ont été infectés, ne le sachant pas, sont allés en ville, ouais. Entre autres dans cet immense marché. Les Chinois ont préféré peut-être, blâmer le marché. C'était plus facile que de blâmer les militaires, blâmer des recherches où les Chinois qui travaillaient au Canada, leurs recherches visaient à tenter de multiplier la puissance des virus et de tester la multiplication de la puissance. Jusqu'à quel point on peut le rendre 10 fois, 40 fois, 50 fois plus puissant pour l'utiliser comme arme biologique.
Terrible, ouais. Terrible. Mais justement, les conséquences de cet obscurantisme que vous avez mentionné fait peut-être qu'aujourd'hui, ils sont en train de perdre la face au niveau économique.
Oui, tout à fait.
Au niveau
tout
économique,
fait.
En tout cas.
Oui. Là, il y a différentes... tu sais, c'est sûr qu'avant que la Chine... c'est cool comme certains le souhaiteraient sur le plan économique. Je pense que à cause de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, surtout vers la fin, parce que quand les Chinois ont vu réapparaître l'Omicron, leur technique traditionnelle de lutte cas par cas contre ne pouvait plus fonctionner, le virus se répandait trop vite. Donc là, on a fermé des villes une nouvelle fois, mais de façon beaucoup plus sévère encore, pendant des mois. Et les Chinois ont l'économie d'abord, s'est écroulée. Il y a des centaines d'entreprises, des milliers d'entreprises qui ont fermé leurs portes, qui ont fait faillite, pas capables de supporter ce traitement de cheval. Et beaucoup de gens qui en ont souffert et tout ça. Il y a eu des manifestations pour qu'un jour, après des manifestations presque violentes dans les rues des grandes villes de Chine, le gouvernement chinois a changé d'un jour à l'autre tout. Complètement. Les Chinois leur racontent cette histoire-là. Il fallait se faire tester tous les jours dans les cours de nos appartements et tout ça. D'un jour à l'autre, tout ça ferme, puis on dit c'est fini, on change de méthode. Et puis, avec la conséquence, c'est que l'Omicron a continué à faire des ravages, mais les gens ne mouraient plus parce que c'était plus un virus aussi dangereux. Et puis, ils ont développé par la force en plus
des anticorps.
Des anticorps, puis une immunité collective. Mais aujourd'hui, donc, alors... à la fin de la crise, en l'été 22, l'automne 22, l'économie de Chine était en catastrophe, hein, croissance presque nulle. Et pour se remonter de ça, ça a pris des mois. L'économie va mieux, mais les taux de croissance sont encore faibles. Chaque fois qu'il y a un chiffre positif, le gouvernement chinois y va de grandes annonces et tout ça, la production industrielle qui a gagné des points et tout ça. Mais il reste que ce pays-là, à cause des suites de la COVID, mais aussi à cause de toutes les attitudes du gouvernement face, on l'a dit, aux investissements étrangers, face aux entreprises étrangères, face aux entreprises chinoises. Les entreprises chinoises qui devenaient de plus en plus puissantes.
Ah oui, on n'a qu'à penser à Alibaba.
Par exemple, le
président qui a disparu de
exactement.
La carte pendant quelques mois.
Puis tous les présidents de grandes compagnies ont chacun à leur tour disparu parce que le gouvernement chinois voulait plus de contrôle. Dans le cas d'Alibaba, c'est vraiment intéressant. C'est que ces grandes entreprises de commerce en ligne, comme Alibaba, font aussi du financement. Ah, ils ont Ant Financial, qui est la grande société de finance.
Ouais, c'est l'exemple lorsqu'on enseigne la fintech.
Ouais, c'est l'exemple de fintech. Hein, et l'idée, c'est que à un moment donné, les banques chinoises qui sont lentes, qui sont complètement voyons, j'ai seulement
mésadapté, peut-être.
Outdated, mésadapté et tout ça. On dit à Xi Jinping, ça n'a pas de bon sens parce que toutes les épargnes des gens s'en vont là-bas. Pourquoi? Parce que les Chinois vivaient une évolution inouïe où le téléphone en Chine, c'est tout. C'est ta banque, c'est tes investissements, c'est tout.
C'est le portefeuille.
Et c'est invraisemblable. Alors, c'est en fait une sorte de... C'est Jack Ma qui a voulu, c'était son objectif dès le début, de faire en sorte que le crédit et la consommation soient accessibles aux plus pauvres. Au début, il fournissait des ordinateurs dans les villages les plus reculés de Chine. Maintenant, les gens font tout ça sur leur téléphone, puis ils se sont adaptés à tout ça, des frais bancaires ridicules, nuls, ou pratiquement nuls. L'entreprise fait son argent autrement, on le sait. Et tout ça pour dire que c'est devenu des concurrents des institutions bancaires. Puis en plus, il a eu la maladresse un jour, Jack Ma, d'aller à une réunion des grandes banques en leur disant « Vous êtes complètement dépassés. Vous gérez sous la houlette du Parti communiste comme si on gérait des banques au 19e siècle, puis etc., etc. » Puis là, ça s'est allé un peu trop parce qu'en Chine, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est critiquer le pouvoir directement. Mais cela dit, en s'attaquant même aux entreprises chinoises, les entreprises chinoises, si le gouvernement chinois avait laissé aller les choses et n'avait pas contrôlé, les entreprises chinoises comme Alibaba déplaçaient tous leurs investissements à l'étranger. Oh. Et là, la Chine aurait été dans une phase catastrophique. Je parle pas aussi de... c'est pour ça qu'on a empêché, entre autres, Jack Ma de faire une opération, une IPO, une opération de sollicitation de fonds à la Bourse de New York, qui était une des opérations les plus importantes jamais vues. Mm-hmm. Et les Chinois ont arrêté ça à la dernière minute parce que les grandes multinationales chinoises allaient se financer à l'étranger.
Ouais, et ce qui est particulier avec Alibaba, quand on regarde, on voit l'analyse, le document légal de l'action, les détenteurs d'Alibaba nord-américains ne possèdent rien. Il n'y a même pas de droit de vote.
C'est intéressant.
C'est dans les apparences.
Ouais.
Et le titre continue de se négocier. Les gens vont spéculer sur le titre, mais dans les faits, les gens ne sont propriétaires de rien.
Ouais.
Première fois de l'histoire qu'une action n'apporte aucun contrôle.
Ça, c'est intéressant. Ouais.
Monsieur Lépine, on pourrait parler comme ça de la Chine pendant des heures. Il y a des sujets que je souhaitais élaborer avec vous, notamment la puissance du BRIC et la monnaie qui est contrôlée par les dirigeants. Mais allons du côté de Taïwan, puisque c'est une source d'inquiétude pour les investisseurs, étant donné que si là-bas ça barde autant qu'en Ukraine, eh ben les résultats, les conséquences seront peut-être plus fâcheuses.
Ouais, parce que le détroit de Taïwan, tous les ports chinois du côté chinois, Taïwan même, c'est 50% de la circulation de containers dans le monde. C'est un hub du transport maritime extrêmement important. Taïwan, c'est 90% des microprocesseurs les plus performants du monde sont fabriqués à Taïwan. On parle de chiffres énormes. S'il y a une crise qui se passe là, d'abord, je suis pas sûr que les Américains vont intervenir. Il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là. Peut-être que les Américains s'entendraient pour faire intervenir ses alliés dans la région comme le Japon, qui devient de plus en plus armé, de plus en plus agressif. Mais ça créerait de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, que ça soit par exemple, le gouvernement chinois décide de lancer un blocus économique et maritime de Taïwan pour vraiment convaincre les Taïwanais par la force d'abandonner leur objectif de souveraineté ou par une invasion militaire carrément. Tout ça est extrêmement délicat, extrêmement dangereux. Les Taïwanais, on le sait, sont un peuple extrêmement fier. C'est une démocratie extrêmement transparente et ouverte, forte. Les gens y croient beaucoup et les gens s'expriment régulièrement sur la peur qu'ils ont de faire partie de l'ensemble politique chinois, où ils perdraient toute leur liberté. Et donc, c'est une situation extrêmement délicate pour ce petit peuple chinois là, de moins de 30 millions d'habitants face à 1,4 milliard de frères qui, eux-mêmes, dans les sondages, ne veulent pas qu'on rapatrie les Chinois veulent qu'on unisse Taïwan et la Chine. Mais les Chinois ne veulent pas qu'on le fasse par la violence. Mm-hmm. Ils sont pas d'accord avec Xi Jinping chaque fois qu'il exprime des objectifs violents par rapport aux Taïwanais. On veut que ça se fasse dans l'harmonie. Mais malheureusement, les Taïwanais ont vu ce qui est arrivé à Hong Kong ces dernières années. Ils savent très bien, ils sont pas fous. Et tout ça se fera pas dans la paix, à moins que le gouvernement, que la Chine change elle-même et que le gouvernement chinois change. Il n'est pas interdit de penser que Xi Jinping disparaîtrait un jour. Il y a une partie du Parti communiste chinois qui est plus ouvert même à la démocratie. Ça s'est déjà exprimé dans le passé. Alors, c'est compliqué. On passe une période très difficile parce que on a à la tête de ce pays-là un homme, c'est vraiment un homme parce qu'il a centré son pouvoir autour de lui-même, il a relancé le culte de la personnalité et il veut, il y a des objectifs précis dont certains sont complètement contradictoires parce qu'il ferme la Chine sur elle-même, il rend la Chine beaucoup plus agressive, ce qui nuit à la Chine alors qu'il veut justement, il accuse les autres d'être agressifs à l'endroit de la Chine. Donc le pays est dirigé par un gouvernement qui est extrêmement imprévisible actuellement. Une dictature peut poser des gestes quand elle se sent agressée. Des gestes imprévisibles, c'est ça qui fait peur à tout le monde dans la région.
Surtout quand le pouvoir est concentré.
C'est ça, exactement. Surtout quand il n'y a aucune transparence, quand il a réduit le leadership décisionnel à un petit groupe d'individus autour de lui. Alors, la Chine passe une période extrêmement difficile où le peuple lui-même, c'est ça qui m'inquiète le plus, moi. Le peuple devient de plus en plus, les gens qui, quand on parle à nos amis chinois, on le sent. Même les Chinois ordinaires commencent à tenir un langage un peu plus agressif face aux étrangers, un peu plus auto-centré, auto-tourné sur eux-mêmes. On peut très vite, avec les médias sociaux, influencer des populations quand il n'y a aucune forme de démocratie dans le pays. Il faut se rappeler que les Chinois, dans leur tradition orale, leur tradition millénaire, n'ont jamais voté. Le vote n'a jamais existé. Ça change complètement les choses. J'en parle dans le livre. Mes employés, dans mes bureaux en Chine, mes employés chinois, quand on était déçus d'un résultat, par exemple l'élection de Trump, je raconte une anecdote où ma femme Mireille est dans la voiture avec une de nos employées, puis elle, quand elle voit Mireille être furieuse du résultat parce qu'elle n'est pas contente que Trump soit élu, elle part à rire, puis elle considère ça un peu comme de la futilité. Puis ma femme se tourne vers elle en lui disant « Tu sais pas ce que c'est, toi, tu n'as jamais voté. » Puis là, la conversation s'est arrêtée.
Oh.
Et c'était, tu sais... En tout cas, donc, ce pays-là est un grand pays. J'essaie de montrer dans le livre d'abord qu'il y a une distinction entre le peuple, que j'aime beaucoup, et le pouvoir autocratique, de plus en plus autocratique. J'essaie de montrer aussi que ce peuple-là a fait en 40 ans des choses exceptionnelles. Hein. C'est les infrastructures en Chine. Vous êtes allé vous-même, vous le savez.
Oui, à ASEAN, entre autres, avec les universités bâties autour d'un centre de développement et de recherche.
Tout à fait. C'est facile, remarque, quand on planifie, puis qu'on n'a pas de BAP, puis qu'on n'a pas de ci, puis qu'on n'a pas de ça, les opposants ne s'expriment pas. On fait des choses, et parmi ces choses-là, on fait des choses positives. Tout le développement du secteur des transports, les ports, les aéroports, pour encadrer le commerce, pour que le commerce puisse fonctionner davantage et tout ça. Le développement de l'industrie 4.0, l'industrie de demain. La Chine, en quelques temps, est devenue le premier producteur mondial de voitures électriques, premier exportateur mondial d'automobiles, dépassant les Japonais.
Ah oui, j'ai été surpris que vous parliez aussi de BYD, qui est en fait plus volumineuse, certainement plus prometteuse même que Tesla.
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que BYD a même dépassé Tesla dans la fabrication de voitures électriques, parce que ça a pris du temps, ça. Tesla a eu une croissance extrêmement
rapide. Même l'autonomie, ils ont surpassé.
Exactement. Ils sont très importants dans la recherche sur les batteries et tout ça. Donc, la Chine a fait des choses extraordinaires. Maintenant, ils se lancent à la conquête de l'espace. Ça va aller aussi vite. Malheureusement aussi, ils développent avec la même énergie leur puissance militaire. Très dangereux. Où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Évidemment, les armes nucléaires, les vecteurs nucléaires, les missiles et tout ça. Donc, moi, je crois beaucoup à ce peuple-là. J'aimerais beaucoup que la Chine reste un pays pacifique, vivant dans la communauté internationale, mais Et il faut faire attention aussi de ne pas... Moi, j'ai collaboré à l'écriture de la politique indo-pacifique du gouvernement du Québec et à celle du gouvernement d'Ottawa. Puis c'est sûr qu'il faut montrer aux Chinois... J'en parlais récemment avec des amis qui connaissent bien la Chine. Il faut montrer aux Chinois, principalement par des mesures économiques, que il faut respecter les règles si on veut se développer sur la planète. Et les Chinois, dans beaucoup de domaines, ne les respectent pas. Donc ça, c'est très important. Puis une des façons de le faire, c'est ce qui est en train de se passer avec la Chine, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de pays qui décident de diversifier. C'est-à-dire, la Chine veut se comporter en bandit ou en voyou, par exemple en enlevant les deux Michael quand on a arrêté légalement et de façon transparente.
En représailles,
on l'a vu quand Mme Meng a eu une solution judiciaire aux États-Unis, qu'elle a été libérée. Deux secondes après, les deux Michael étaient libérés aussi. Ils servaient de monnaie d'échange. Et ça, c'est inacceptable que des pays ou des puissances voyous comme la Corée ou à l'époque le Hezbollah au Liban ou etc. fassent ça. On comprend leur logique là, mais que la Chine, un grand pays qui veut être une puissance mondiale, qui veut inspirer la planète, ait recours à des méthodes comme ça, c'est extrêmement dangereux. Et la meilleure façon de le faire, c'est de dire à la Chine, vous êtes contournable. Si vous vous comportez comme ça, on va faire affaire avec des partenaires qui sont plus transparents, qui sont plus respectables.
Mais elle peut aussi, elle n'a pas suffisamment exploité son marché intérieur et peut justement continuer à progresser, à avancer avec un marché d'un
point 4
milliard.
Tout à fait. Ça, c'est un peu comme le Japon l'a fait à une certaine époque. Le Japon s'est développé en exploitant d'abord son marché intérieur comme un laboratoire. Et la Chine a cette capacité-là. Mais les Chinois s'appauvrissent. Pour toutes sortes de raisons, c'est une société vieillissante qui va avoir ses problèmes sérieux. Les jeunes aussi se plaignent beaucoup de la concurrence sur le marché du travail, des exigences des entreprises. Les entreprises ne pourront pas toujours exploiter la main-d'œuvre de façon extrêmement autoritaire. Donc, c'est un marché intérieur qui... C'est une classe moyenne de 400 millions d'individus qui a sa façon de penser, qui veut aussi vivre comme nos consommateurs ici.
Un peu comme les Occidentaux.
Donc, on ne peut pas malmener ces gens-là tout en s'en servant pour développer son économie. Donc, il faut être très prudent. C'est un pays qui a beaucoup de défis à l'échelle de sa population, à l'échelle de certains problèmes comme le vieillissement. On n'a même pas parlé de l'immobilier, qui est un problème majeur. Les grands promoteurs immobiliers de Chine qui sont presque tous en faillite et qui, si ça devait s'écrouler, devrait être sauvé par le gouvernement chinois qui est déjà surendetté. Alors, c'est un pays qui a beaucoup d'enjeux, qu'il faut surveiller. Puis moi, je dis tout le temps, surtout, il faut continuer à avoir des relations avec les Chinois, mieux connaître la Chine, mieux étudier la Chine. Ce que j'ai essayé de faire un peu dans le livre,
vous l'avez
puis ce qu'on fait ensemble
fait.
Aujourd'hui.
Ouais, vous l'avez merveilleusement bien fait. Je recommande à tous d'aller se procurer le bouquin « Les angoisses de ma prof de chinois, où s'en va la Chine » chez Libre Expression de Jean-François Lépine.
Planifiez mieux avec le balado Le Planif.
Notre question du beau-frère provient de John de Dollars des Ormeaux. Son beau-frère l'exhorte de sortir tous ses investissements qui touchent de près ou de loin à des entreprises basées en Chine. Car, dit-il, le gouvernement chinois manipule toutes les données, on ne peut pas s'y fier. A-t-il raison d'être aussi méfiant? Et comment peut-on valider les données officielles en évitant d'inclure des investissements dans les pays du BRIC comme la Chine? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Alors, notez que la fiabilité des données économiques provenant des autorités chinoises est un sujet fréquemment débattu parmi les économistes, les analystes, les investisseurs internationaux. Et bien que la Chine ait fait des progrès dans l'amélioration de la transparence, de la qualité des statistiques économiques, des inquiétudes persistent quant à la précision, la fiabilité de certaines de ces données. Alors voici quelques points de vue sur les moyens indirects qu'on peut donc emprunter pour pouvoir valider certaines données. Les analystes des chercheurs restent sceptiques quant à la précision des données officielles en mentionnant que ça peut être influencé par des motivations politiques ou des désirs de maintenir la stabilité sociale. On ne veut pas inquiéter les gens, donc. D'autres reconnaissent que la Chine a fait des efforts pour améliorer la qualité des statistiques économiques en collaborant avec des organisations comme le Fonds monétaire international pour renforcer des méthodologies et des pratiques de création de rapports. Mais il y a des moyens, donc, pour vérifier ces données. On peut utiliser des indicateurs alternatifs pour obtenir une image plus précise de l'économie chinoise. Ça peut inclure la consommation d'électricité, le trafic de marchandises, des enquêtes auprès des directeurs d'achats internationaux de sociétés occidentales, donc, et les données sur les exportations et importations. On recoupe ces données et on commence à avoir un portrait. Et si cette image concorde avec, justement, les données officielles, on se retrouve donc avec un peu plus de certitude. Il est possible d'analyser les données commerciales des principaux partenaires de la Chine et on peut offrir comme ça des indices sur la santé économique du pays. Par exemple, si les exportations d'un pays, disons le Canada, vers la Chine augmentent ou diminuent, ça peut indiquer une variation dans la demande intérieure chinoise. On peut donc voir des choses venir. L'observation de la Chine par satellite, ça c'est fascinant. Ça permet de suivre des éléments comme l'activité dans les grands ports, les niveaux de pollution, qui peuvent devenir un indice de l'activité industrielle qui augmente. Et même l'éclairage nocturne des villes servent justement d'indicateur parce qu'évidemment, quand jour et nuit, il y a de l'activité, bien évidemment, il y a la croissance qui est en augmentation. Les performances, commentaires des entreprises internationales qui opèrent en Chine peuvent fournir aussi une idée sur la santé économique. Il y a de nombreux instituts de recherche internationaux et des banques qui effectuent leur propre analyse de l'économie chinoise. Ils utilisent à la fois des données officielles et des indicateurs alternatifs ou créés spécialement pour évaluer la situation économique du pays avant de s'en faire une thèse. Il est donc important de noter que des méthodes indirectes, ça peut offrir des perspectives précieuses. Elles ont également leurs propres limites et doivent être utilisées en complément des données officielles plutôt que comme substitut. Et la combinaison de différentes sources d'informations, bien, ça peut aider les analystes, les investisseurs à obtenir une vue plus complète et nuancée. Et il faut donc voir le score et j'invite les gens qui veulent investir justement en Asie de regarder le parcours, soit des gestionnaires actifs en Asie et comprendre leur méthodologie pour gérer le risque. Mais c'est certain que faire des affaires avec un gouvernement comme ça n'a jamais été un gage de transparence totale et ça ajoute une couche de risque supplémentaire pour un investisseur. L'épisode se termine ainsi. Ici Fabien Major. À bientôt.